La vie religieuse en Chine, une image complexe à définir. Les groupes religieux peuvent y agir à condition de se plier aux règles établies par le pouvoir communiste et de suivre les orientations fixées par celui-ci, c'est la loi. Cela dit, malgré leur petit nombre au sein de la population chinoise, les chrétiens font preuve d'un grand dynamisme. L'église catholique notamment, que l'on considère souvent comme divisée en deux communautés, l'une clandestine, l'autre officielle, connaît actuellement une croissance rapide qui s'exprime notamment par une présence sur le terrain social. L'image de l'Église catholique en Chine, ses priorités, ses défis. Nous en parlons aujourd'hui avec le père Joseph Birchan, qui vit à Shanghai depuis de longues années et qui connaît bien le problème des religions en Chine. Joseph Birchan déplore les clichés sur l'Église que véhiculent les médias en Occident. Il préfère parler d'une Église dynamique et fidèle à la foi de l'Église universelle, mais qui se débat dans des problèmes énormes.
Ce qui me frappe, c'est la fidélité des catholiques de Chine. Ils veulent être fidèles à leur foi, ils veulent être fidèles à la foi de l'Église catholique, et il y a un dynamisme extraordinaire qui s'exprime parce que on a des conversions très nombreuses tous les ans, et c'est vraiment un signe d'espérance extraordinaire. On a aussi beaucoup de vocations, aussi bien chez les garçons que chez les filles, et on sent une Église qui est en train de sortir de l'anonymat, une Église qui veut être reconnue et une Église qui veut entrer en relation avec les Églises particulières de la région.
Oui, alors on connaît le développement économique impressionnant de la Chine, mais paradoxalement, on entend dire que le malaise social y est toujours plus visible. Tous, apparemment, ne profitent pas de cet enrichissement. Alors à quel type de problèmes sociaux l'Église est-elle confrontée et dans quelle mesure intervient-elle ?
Alors, il y a des gros problèmes sociaux, effectivement. En particulier, l'écart entre les riches et les pauvres s'accroît constamment. Mais l'Église essaye de faire face à cette situation, de conseiller aux jeunes de ne pas trop s'embourber dans un matérialisme bassement terre-à-terre. Et ça, je crois que c'est un service vraiment à rendre au pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant, je dirais, corrompus et qui ne s'intéressent plus qu'à l'argent. L'Église, c'est un petit peu un souffle nouveau qui donne à toute une jeunesse un nouvel idéal.
Et on a l'impression aussi que cette montée en puissance de la Chine s'accompagne d'une résurgence du nationalisme. Est-ce que c'est effectivement le cas? Et qu'est-ce que cela implique pour l'Église et pour ses activités?
Alors, la résurgence, effectivement, de ce nationalisme, c'est quelque chose qui est encouragé par le gouvernement. Et on veut, par exemple, que les Jeux Olympiques, qui vont avoir lieu l'année prochaine, soient une grande vitrine pendant laquelle le monde entier va admirer les réalisations de la Chine. Et j'ai peur, j'espère que je me trompe, mais j'ai peur que ça tourne à une propagande. Et pour l'Église catholique, c'est quelque chose d'important à se souvenir, c'est qu'elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Et on ne peut pas donner dans une église nationale. Vous voyez, dans une église nationale où finalement l'église de Chine serait isolée des autres églises.
En fait, quel rôle social précis l'église catholique aujourd'hui dans tout ce contexte veut-elle jouer vraiment?
Alors, le rôle social est assez difficile à définir parce que justement le gouvernement voudrait qu'elle se limite à un culte et à rien d'autre, vous voyez. Mais on ne peut pas empêcher finalement les chrétiens d'être chrétiens et leur amour de s'exprimer à leur entourage. Et on a des chrétiens qui s'impliquent, par exemple, dans leur quartier, qui s'impliquent auprès des personnes âgées, qui s'impliquent auprès des malades. On a, par exemple, des religieuses dans la ville de Xi'an qui sont en ce moment en train de soigner les malades du sida. Vous voyez, vous avez aussi des religieuses qui s'occupent des orphelins. Et en général, c'est des orphelins qui ont été abandonnés parce qu'ils ont un handicap physique ou mental. Vous voyez, je pense que l'Église de Chine est en train en ce moment de vraiment montrer son souci pour les plus pauvres et les plus déshérités.
Les populations, les fidèles, comment vivent-ils cette distinction entre deux communautés catholiques, une soi-disant patriotique et l'autre clandestine?
Il n'y a pas d'Église patriotique en Chine. Il y a une confusion là que les journalistes font souvent. C'est pas une église patriotique, c'est une association patriotique qui veut contrôler l'église. Alors le problème, c'est qu'il y a certains qui acceptent un certain contrôle quand il n'est pas trop envahissant, et on appelle ça l'église officielle. Et il y a l'église souterraine qui, elle, résiste et ne veut pas du tout de contrôle. Mais je pense aussi que ça dépend des régions. Il y a des régions où le pouvoir local est beaucoup plus conciliant, et dans ce cas-là, on peut trouver des compromis avec lui. Et il y a des régions, au contraire, où le pouvoir local est resté extrêmement sévère. Et dans ce cas-là, l'Église va volontiers dans la clandestinité et refuse donc toute collaboration avec le pouvoir.
Et à Hong Kong, 10 ans après sa rétrocession à la Chine, est-ce que la situation religieuse a changé? Confrontée aujourd'hui à d'importants changements sociaux et politiques, l'Église catholique réoriente son rôle social en fonction du contexte actuel, principalement quant à son rôle prophétique et à ses relations avec le gouvernement chinois après la législation britannique qu'elle a connue durant plus de 150 ans. Actuellement, le problème des écoles catholiques occupe le devant de la scène. L'archevêque de Hong Kong a dénoncé il y a quelques mois une offensive du gouvernement qui met en péril le sort de 300 écoles, une nouvelle réalité que le père Joseph Birsha nous illustre.
Alors la situation a changé. On a senti progressivement que le gouvernement essayait de mieux contrôler un certain nombre d'institutions et en particulier les écoles catholiques. Alors en ce moment, il y a un grand défi qui est lancé parce que le gouvernement voudrait qu'en 2010, les écoles catholiques ne soient plus contrôlées par l'Église, mais soient contrôlées par des parents d'élèves qui, on le craint beaucoup, n'auraient plus le souci de l'éducation des enfants comme l'a l'Église, mais auraient plutôt le souci de gagner de l'argent.
Alors comment l'Église de Hong Kong réagit-elle face à ce risque? Comment compte-t-elle sauvegarder ses acquis?
Alors l'Église de Hong Kong, je dirais que là, elle a une attitude, disons, assez diversifiée. Par exemple, le chef de l'exécutif, M. Donald Tang, qui est un catholique très fervent, lui pense qu'il faut faire des concessions avec à Pékin et il faut finalement composer avec eux. Le cardinal Wen, au contraire, lui, il est pour une attitude beaucoup plus ferme et il ne veut pas faire de concessions. Et il a dit, jusqu'à 2010, nous tiendrons nos écoles et nous n'accepterons pas de changement. Après, si on est obligé de le faire, on le fera, mais ça sera vraiment à contre-cœur.
Et au plan social, est-ce que l'Église de Hong Kong a dû réorienter durant ces 10 années son rôle en fonction du contexte actuel?
Je dirais qu'elle a continué à faire ce qu'elle faisait avant. On ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une rupture. Il y a plutôt une continuité. L'Église de Hong Kong a un organisme qui s'appelle Caritas, qui s'occupe justement de la promotion sociale, qui s'occupe des plus pauvres. Et ce Caritas continue à faire à Hong Kong un travail social extrêmement appréciable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce travail maintenant déborde la frontière. Ce travail maintenant est aussi présent sur le continent chinois. Et on espère que ce témoignage sera perçu par de nombreux chrétiens et même des non-chrétiens chinois.
Et vous pensez que le reste de la Chine sera sensible à ce témoignage social de la part de l'Église de Hong Kong et que le gouvernement lui-même pourrait y être sensible aussi?
Je pense que le témoignage d'aide sociale qui est très sincère, je pense que ça peut frapper beaucoup de gens et qui peuvent effectivement être amenés à réfléchir en disant mais pourquoi est-ce que l'Église contribue comme ça au développement social, à l'éducation des jeunes, à s'occuper des plus pauvres? Et je pense que c'est une façon de faire passer le message. Mais je dirais une façon beaucoup moins agressive que l'évangélisation directe. Et on espère que le gouvernement sera sensible à ce respect des gens que l'Église de Hong Kong a, non seulement à Hong Kong, mais sur tout le continent chinois.